Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos archives du jour. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, pour commencer, imaginons un instant une scène très familière.
Ouais, une salle de réunion bien classique, j'imagine.
Exactement, le grand classique. Avec les tasses de café éparpillées, les sourires polis, l'ordre du jour projeté sur un grand écran, bref, la routine. Mais maintenant, si l'on gratte un peu le vernis de cette scène, le décor se dissipe brutalement.
Ah oui, c'est là que ça bascule.
Voilà, les murs disparaissent, le sol devient de la terre battue et on se retrouve au beau milieu d'une arène poussiéreuse. Et dans cette vision, chaque collègue est armé, chaque sourire masque un piège et chaque mot prononcé n'est rien d'autre qu'un mouvement tactique calculé pour déséquilibrer l'autre.
C'est une image assez terrifiante, hein.
C'est clair. En gros, la société civile n'existe plus. Elle laisse place à un champ de bataille perpétuel où la moindre naïveté est sanctionnée sur le champ.
Et le plus fou, c'est que cette allégorie de l'arène, c'est pas tiré d'un roman dystopique. C'est très exactement la prémisse du document que nous examinons aujourd'hui.
Un document au ton pour le moins martial, oui.
Absolument. C'est un texte contemporain intitulé « Arène de la prudence guerrière » qui agit vraiment comme un manifeste brutal. Son postulat de départ, c'est que notre monde moderne est un chaos régi par la vanité et la cupidité.
Rien que ça.
Ouais. Un espace où la survie exige une ingénierie sociale et intellectuelle impitoyable. Et pour fonder cette doctrine, l'auteur ne s'appuie pas sur des théories managériales récentes, mais sur une œuvre de, accroche-toi, 1647.
Waouh !
C'est l'Oraculo Manuali Arte de Prudencia, ou l'homme de cour en français, du jésuite espagnol Balthazar Gracian.
C'est quand même un grand écart temporel saisissant. Un prêtre du XVIIe siècle qui fournit le manuel tactique d'un texte d'une hostilité vraiment viscérale envers notre époque. Et le temps du document, d'ailleurs, est sans équivoque. Il tire à boulet rouge sur le monde contemporain.
Oui, et il est d'ailleurs indispensable de poser un cadre strict avant de plonger là-dedans. Parce que le texte déploie un vocabulaire très polarisé. C'est foncièrement anti-moderne.
Très chargé politiquement, oui.
Totalement. L'auteur qualifie l'époque de, je cite, post-68arde, il rejette avec virulence les utopies égalitaristes ou encore la niaiserie universelle. Il renvoie même la totalité du spectre politique dos à dos en parlant de l'asile de gauche comme de droite.
Oui, il n'épargne personne, quoi.
Personne. Donc, il est vital de préciser à notre audience que l'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, ce n'est en aucun cas d'endosser ces thèses, de les valider ou de les condamner.
Bien sûr.
Notre travail, c'est vraiment de démonter les rouages de cette machine intellectuelle, pièce par pièce, pour comprendre la vision du monde qu'il propose.
Bon, décortiquons un peu ça. La question centrale devient évidente. Si le monde extérieur est décrit comme une menace constante, peuplée de charlatans et de gogols, pour reprendre ces termes, quelle est la toute première ligne de défense? Comment on s'équipe pour survivre à cette arène?
Eh bien, la réponse du texte est super contre-intuitive. La première ligne de défense ne se trouve pas dans l'attaque, mais dans un repli radical.
Un repli sur soi ?
Ouais. Il faut d'abord verrouiller son propre esprit. C'est ce que l'auteur nomme la construction de la citadelle intérieure.
D'accord, la citadelle intérieure.
L'idée, c'est qu'on ne peut pas prétendre maîtriser les dynamiques sociales si on est soi-même l'esclave de ses propres émotions. Le document exige de forger son intellect à travers un lexique très rigide, un processus qu'il appelle « armer la raison ».
Mais concrètement, comment on arme sa raison ? C'est pas en mémorisant un dictionnaire. Il doit y avoir des mécanismes psychologiques précis, non ?
Tout à fait. Le document identifie trois piliers conceptuels. Le premier, c'est la prudence. Mais attention, dans le langage courant, la prudence, c'est juste faire attention en traversant la rue.
Oui, mettre sa ceinture, quoi.
Voilà. Mais ici, c'est défini comme une vertu tactique. C'est la capacité clinique à discerner le véritable bien à long terme et à calculer les moyens justes pour l'atteindre, indépendamment de toute impulsion morale immédiate.
Ah oui, c'est très froid.
Très froid. Le deuxième pilier, c'est le discernement. C'est décrit comme une véritable vision aux rayons X. Séparer le vrai du faux, de manière implacable, sans jamais se laisser aveugler par les beaux discours.
C'est une sorte de filtre mental permanent, en fait.
C'est ça. Et le troisième pilier, peut-être le plus fondamental, c'est la singularité. Et là encore, il faut oublier la définition moderne. C'est pas afficher un style excentrique ou être original, pas du tout.
C'est quoi alors ?
C'est un état de quarantaine intellectuelle. Être totalement immunisé contre la contagion des opinions de la masse. L'auteur affirme que l'homme d'exception doit instaurer en lui-même une raison d'état personnel.
Une raison d'état personnel, c'est fort comme image. Si on file un peu la métaphore, ça me rappelle l'architecture de cybersécurité de type Zero Trust, le modèle Zéro Confiance.
Ah, intéressant.
Bah oui, dans les réseaux informatiques très sensibles, le système ne fait confiance à aucune machine, même celle à l'intérieur du réseau. Chaque requête est auditée et vérifiée. Donc, appliquée à l'esprit humain, ça veut dire qu'aucune émotion, aucune colère n'a le droit de s'exprimer sans avoir été filtrée et validée par la raison. On devient le monarque absolu de son propre esprit.
La comparaison avec le zéro confiance est redoutablement pertinente, ouais. Le texte exige un inventaire scrupuleux de ses propres facultés. Si on autorise la colère ou la convoitise à prendre les commandes, on crée une faille de sécurité béante.
On devient prévisible et donc manipulable.
Exactement.
Mais cette obsession du contrôle, ça part quand même d'un postulat extrêmement sombre. Pourquoi traiter l'humanité entière comme une zone de haute dangerosité? Qu'est-ce qui justifie ça dans le texte?
Alors, l'argumentation s'appuie ici sur Francesco Guicciardini, un historien et homme politique de la Renaissance italienne. La source convoque une idée précise. Les humains ont une inclination naturelle vers le bien, mais leur constitution morale est d'une fragilité absolue.
Il craque facilement, quoi.
C'est ça. Face aux tentations du monde, l'humain s'écarte inévitablement de la droiture. Donc, ce n'est pas que l'humanité est fondamentalement démoniaque, c'est qu'elle est structurellement défaillante.
D'où la nécessité de cette fameuse forteresse pour éviter la contagion.
Voilà. Sans cette discipline de fer, c'est la chute.
Mais le problème logique de cette stratégie, c'est qu'une forteresse, par définition, bah ça se voit. Si on bâtit d'immenses murailles psychologiques, on s'isole, non? Et un ermite, ça survit pas dans l'arène sociale.
C'est vrai.
Comment cet homme d'exception, blindé dans sa citadelle, fait-il pour interagir avec les autres sans révéler qu'il joue un tout autre jeu?
Et c'est à ce moment précis que le texte déploie sa deuxième phase tactique, l'armure de l'illusion.
Oh, j'adore le terme.
Puisque la forteresse ne doit pas être vue, il faut la camoufler derrière les normes de la société. C'est le principe de l'opacité stratégique.
L'opacité stratégique, oui. Donc on se fond dans la masse.
C'est ça. Le document conseille d'épouser les coutumes de son époque, d'éviter toute excentricité qui pourrait éveiller la méfiance.
C'est un camouflage parfait. Mettre le masque de la normalité pour cacher son imperméabilité totale.
Exactement. Le texte cite la maxime 99 de Gratiane. Les choses ne passent point pour ce qu'elles sont, mais pour ce qu'elles paraissent.
C'est redoutable.
La transparence, pour lui, c'est une faiblesse fatale. Si tu es lisible, tu offres des prises à tes adversaires. La dissimulation doit être érigée en méthode systématique.
Ok, mais une fois que ce camouflage est en place, comment le stratège opère concrètement? Parce que se cacher, ça suffit pas à dominer l'arène.
C'est là qu'intervient ce que le document appelle l'ingénierie des dépendances. La méthode est simple. Se rendre absolument indispensable en monopolisant des compétences rares.
Jusque-là, c'est du bon sens professionnel.
Oui, mais la règle d'or, stipulée noir sur blanc, c'est qu'il faut cultiver le besoin chez l'autre et bannir la recherche de la gratitude.
Attends, pas la gratitude? C'est une logique qui prend à rebrousse-poil tout ce qui fonde la coopération, là.
C'est clair.
La gratitude, c'est le ciment des sociétés. C'est l'entraide, la réciprocité. Pourquoi vouloir éliminer ça?
Parce que, selon le texte, la gratitude a une date de péremption. Une fois qu'un service est rendu, la dette morale s'efface vite. L'humain oublie le bienfaiteur dès que le problème est résolu.
Ah oui, vu comme ça.
La nécessité, par contre, c'est un moteur perpétuel. Maintenir l'autre dans le besoin garantit une sujétion durable.
Si on transpose ça aujourd'hui, c'est l'équivalent de l'ingénieur qui est le seul à maîtriser l'architecture d'un logiciel critique pour l'entreprise, non?
Ah, très bon exemple.
Bah oui, s'il partage son savoir et résout tout, on le remercie, mais il perd son pouvoir. S'il distille son aide au compte-gouttes, la direction est obligée de se plier à ses exigences.
Le parallèle est exact. Et l'auteur s'appuie très ouvertement sur Machiavel ici. Il reprend la métaphore du prince. Il faut être renard pour discerner les pièges et lion pour épouvanter les loups.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment ça se traduit au quotidien?
Par une règle managériale machiavélique, le stratège s'attribue l'exécution de toutes les tâches agréables, celles qui attirent la lumière.
Bien sûr.
Et il délègue systématiquement les besognes odieuses, les annonces impopulaires, à des subordonnés.
Pour garder les mains propres, toujours.
Voilà, le subordonné absorbe le ressentiment et l'homme d'exception préserve l'illusion de sa bienveillance.
Cette approche pose quand même un immense problème moral. Si la totalité des interactions sociales est basée sur la manipulation et la création artificielle de dépendance, l'homme d'exception, il ne devient pas juste un sociopathe fonctionnel.
C'est la grande question, ouais.
Je veux dire, comment le texte envisage la sphère intime, l'amitié? Est-ce qu'il y a un moment où l'armure tombe?
Eh bien, l'armure ne tombe jamais. Dans les relations intimes, le pragmatisme atteint son paroxysme. La vision de l'amitié est strictement transactionnelle.
Waouh, aucune pause ?
Aucune. La doctrine affirme que les épanchements du cœur, la confidence spontanée, ce sont des vulnérabilités fatales. Il faut fréquenter un ami en gardant à l'esprit qu'il pourrait devenir l'adversaire de demain.
C'est d'une froideur inouïe. D'ailleurs, il y a un détail frappant dans les sources concernant la gestion des relations.
La fameuse consigne sur la malchance ?
Oui, fuir la poisse. Le texte stipule qu'il faut se tenir aveuglément éloigné des malchanceux et des imprudents, des ratés, parce que leur malheur serait contagieux. L'empathie est traitée comme un risque systémique pur et simple.
Ouais, et la logique derrière ça, c'est que si quelqu'un échoue constamment, c'est pas le hasard cosmique. C'est le symptôme d'un manque de prudence et de discernement.
Donc, s'associer à eux, c'est de l'inconscience.
Absolument. À l'inverse, il faut se rapprocher des gens fortunés, non pas par cupidité, mais pour apprendre à dompter la fortune. Et ça nous amène à l'art de l'esquive.
L'art de l'esquive, c'est-à-dire ?
Face aux calomnies ou aux querelles stériles, le stratège ne combat pas sur tous les fronts. Il pratique l'indifférence.
Ne pas donner à l'adversaire le privilège de la réaction.
Voilà. Ce qui est fascinant ici, c'est comment le texte transforme chaque interaction en gestion d'énergie. Il cite la maxime 71, « Savoir refuser est grand, mais se refuser soi-même tant aux affaires qu'aux importants, c'est la maîtrise suprême. »
Une économie du bonheur, par la modération, en somme.
Exactement. Répondre avec passion, c'est s'abaisser au niveau de la masse.
On en revient à ce bilan comptable humain. Chaque personne est un actif ou un passif. Mais ça me pose une question vertigineuse. On a cette forteresse impénétrable, des douves de manipulation, mais au centre, il y a quoi ?
C'est le cœur du problème.
Bah oui, où est le sens ? Si la vie n'est qu'une série d'esquives, le risque, c'est que cette forteresse soit complètement vide. Alors qu'est-ce que tout cela signifie ?
Et c'est là le chaos final du document. Le renversement de perspective colossal, pour éviter justement ce cynisme stérile.
Je t'écoute.
Toute cette opacité, cette dissimulation, ce n'est pas conçu pour la gloire profane. Ce n'est pas un manuel pour amasser des richesses ou devenir le maître du monde. Le but ultime, c'est d'atteindre la sainteté catholique, traditionnelle.
Attends, pardon, la sainteté catholique ?
Et ouais, le grand écart.
Mais c'est impossible à concevoir. Comment on marie Machiavel, le roi de la ruse, avec la quête de la sainteté ? La religion catholique prône la charité et la vérité. Ce manuel prêche la manipulation et la peur de la contagion.
Je sais, c'est très paradoxal. Mais le texte opère cette fusion par ce qu'on pourrait appeler une téléologie de l'ascèse. En gros, le monde est tellement corrompu qu'on ne peut pas le traverser avec la naïveté de l'agneau sans perdre son âme.
Donc la fin justifie les moyens.
Exactement. Il faut utiliser les armes corrompues du monde, la ruse du renard, pour se protéger des loups. La liberté gagnée par ces manœuvres ne sert pas à la jouissance personnelle, mais à être soumise à l'ordre divin sous le regard du Christ.
D'accord. Donc on manipule le monde pour que le monde ne puisse pas manipuler notre relation à Dieu. C'est fou.
C'est l'essence même de l'argument. Et pour verrouiller ça, l'auteur s'appuie sur Jacques Bénigne Bossuet, un grand théoricien du XVIIe siècle.
Pour affirmer l'autorité religieuse, j'imagine.
Oui, avec deux dogmes. D'abord l'autorité descendante. Bossuet dit « Le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. »
Et le deuxième dogme ?
Le rejet de la pensée individuelle. Bossuet dit qu'avoir un esprit particulier, s'attacher avec orgueil à ses propres pensées, c'est la définition de l'hérétique.
C'est un paradoxe complet. Alors ?
Si l'on relie cela à une perspective plus large, c'est fascinant.
Oui, parce que l'homme d'exception construit une forteresse d'indépendance absolue. Il rejette la masse, audite ses émotions, manipule tout le monde. Tout ça pour abdiquer sa pensée individuelle au profit des vérités générales de l'Église.
Exactement. L'hyperpragmatisme politique de Machiavel, mis au service de la rectitude morale et spirituelle la plus intransigeante.
C'est d'une densité incroyable. Si on devait résumer la doctrine, c'est cette fameuse phrase du texte. Corriger ou dissimuler la dominance comme impératif de survie. Il faut allier la finesse du renard à la rectitude du saint pour survivre dans les ruines du monde.
Mais ça laisse une réflexion finale très provocatrice pour notre auditoire.
Ah oui.
Imaginons que ce manuel élitiste devienne universel. Si tout le monde décidait d'appliquer cette doctrine, masquer ses faiblesses, cultiver l'opacité, traiter ses amis comme de potentiels ennemis pour préserver sa forteresse.
Ce serait invivable.
Est-ce que la société deviendrait une utopie de politesse parfaite et sans conflit ? Ou est-ce qu'elle s'effondrerait sous le poids d'une paranoïa généralisée et l'absence totale de chaleur humaine ?
La frontière entre la maîtrise absolue de soi et la mort clinique du lien social semble vertigineusement fine. C'est sur cette tension que s'achève notre analyse d'aujourd'hui.
C'était intense.
Très intense. La prochaine fois que vous entrerez dans une salle de réunion, face au sourire poli, la question se posera inévitablement. Qui est en train de secrètement bâtir sa citadelle ? Merci de nous avoir suivis dans cette exploration hors des sentiers battus. Gardez l'esprit critique et à très bientôt.